CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Et bonjour tout le monde et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du MAG où aujourd'hui on vous parlera de la semaine pour la petite enfance qui se tient jusqu'à samedi sur le Quercy-Caussadet avec plein de spectacles, de tables rondes, d'ateliers pour les tout-petits, leurs familles et les professionnels ou futurs professionnels de la petite enfance. On vous dira tout dans ce MAG. Après, comme tous les mardis, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques avec Victor Le Guenec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGR. Enfin, coup de cœur, aujourd'hui on fait plus un petit point sur un style, un genre, une catégorie de livres, aux frontières plus que floues dans l'imaginaire collectif, le roman graphique. Alors, d'où ça vient, de quand ça vient, de quoi ça vient, de qui ça vient et de pourquoi est-ce que comment le terme a dérivé dans la langue, au point de ne plus trop savoir de quoi qu'on cause. Tout le monde a plus ou moins sa propre définition. Je vous propose donc un petit récap de tout ce joyeux foutoir. Vous êtes prêts? On décolle pour un peu d'histoire illustrée, pardon. D'histoire de l'illustrer, histoire de lustrer tout ça. 1827, Genève. Et oui, on remonte loin. Et encore, j'ai lu tout le côté oriental pour lequel il m'aurait fallu beaucoup plus de temps et toute la proto-BD qui narre aussi des histoires sous forme dessinée. Que ce soit en peinture rupestre, en fresque gravée, en hiéroglyphe mythologique, en estampe colorée ou encore en tapisserie conquérante. Mais la BD se définissant à la fois par sa forme, un art narratif séquentiel, je simplifie à l'extrême, et son médium, le papier, on situe donc en général son début à 1827 à Genève par Richard Topfer, homme de lettres, académicien, mais surtout directeur de son propre pensionnat. Et c'est à ses élèves qu'il montrera les premières planches de BD qu'il dessine pour les divertir. Plus tard, son ami Goethe, qui tombera dessus, l'encouragera à publier ses œuvres, et ainsi naissent ce que le consensus reconnaît comme les toutes premières bandes dessinées. Pendant des années, le genre s'imite, s'exporte en France, Allemagne, Angleterre, et puis un peu partout. Plein de nouveaux auteurs copient, développent et imaginent de nouveaux éléments. Aux États-Unis, Richard Felton Hulko, dans le Yellow Kid, instaure la pratique du phylactère en bande dessinée, ce qui existait déjà dans la satire et la caricature, ainsi que dans certains tableaux. Mais bref, chaque pays, culture, développe son propre langage dessiné, son propre support, ses propres méthodes d'impression et ses plus ou moins propres systèmes d'édition. Les genres se séparent, se rejoignent. En Europe, les illustrés pour enfants explosent et aux États-Unis, les family strips se diffusent partout. 1933. New York, et oui, 200 ans d'histoire en deux minutes. On arrive au vif du sujet qui nous préoccupe, le marché du comics, anciennement funnies, change de format d'édition. Le comic book devient un format de diffusion de bande dessinée originale. C'est-à-dire pas seulement des recueils de strips parus dans les journaux, mais bien un format dédié uniquement à la BD. Ce qui va permettre une plus grande richesse de création. Et en mars 1938 apparaît quelque chose qui changera à tout jamais l'histoire du comic en particulier et de la BD en général. Ça t'inspire quelque chose, Lisa ?
Superman, évidemment.
Tout à fait, le premier super-héros qui nous arrive des étoiles. Le genre va littéralement redéfinir l'édition des comics, à pratiquement en étouffer le reste. L'édition ne se base plus que là-dessus. Bien plus tard, après-guerre, apparaît un autre format, plus long, plus complet, qui se veut plus intimiste, moins distraction, plus sérieux peut-être. Mais il y a un hic. Le genre comics est principalement super-héros aux États-Unis, à l'instar des illustrés en France, qui sont avant tout à destination des enfants. Le grand public considère du coup largement le média BD comme quelque chose d'enfantin, de naïf, de gentil, un truc mignon, quoi, un peu concon, voire même dangereux pour une jeunesse en perte de repères, qu'un adulte digne de ce nom ne devrait pas lire, à l'instar des littératures de l'imaginaire, SF, fantasy et autres fantastiques. Ainsi, le public américain n'est pas réceptif à ces nouvelles BD. Des auteurs tentent alors de redéfinir leurs œuvres. C'est Kyle Richard, critique du genre, qui utilisera la première fois le terme graphic novel. Puis, quelques auteurs feront inscrire le terme sur leur couverture. C'est finalement, le grand, l'unique, Will Eisner, en 1978, qui popularisera le terme avec son œuvre « Un pacte avec Dieu ». Un recueil de nouvelles en noir et blanc ayant pour thème son enfance et le Bronx qui en a été le théâtre. BD, bien entendu, disponible dans le réseau des médiathèques. Will Eisner fera ainsi rentrer la BD sous le nom roman graphique par la grande porte dans les librairies grand public non spécialisées. En l'utilisant, il marquait une intention, celle de se distinguer du comic et de la bande dessinée produite jusque-là, en voulant donner une image d'un format plus sérieux, moins enfantin et s'adressant aux adultes pour neutraliser les connotations négatives du comic books et du comic strip, l'équivalent populaire du 48cc, c'est-à-dire le 48 pages couleur cartonnée en France. Si aux États-Unis ce changement a été important pour promouvoir ce genre, en France, où le terme arrivera bien, bien plus tard, et sans rien bien vraiment définir, l'édition a profité de l'engouement américain pour ce nouveau genre, afin de vendre des BD à un lectorat qui n'en lisait pas. Si cette volonté est peut-être de diffuser plus largement le support bande dessinée, l'intérêt n'en est pas moins très pécunier. C'est du marketing pur, et ça a apporté ses fruits. Mais par déformation, l'idée que les romans graphiques sont un genre à part entière de la bande dessinée classique et des comics est restée bien ancrée dans l'esprit d'une partie du grand public jusqu'à aujourd'hui. Alan Moore, gigantesque auteur, disponible lui aussi sur le réseau, dira « C'est le genre de marketing avec lequel je n'ai jamais eu la moindre sympathie. Le terme BD me va aussi bien. Le vrai problème, c'est que ce terme roman graphique a justement été inventé pour signifier BD cher. Et du coup, vous avez des gars, parce que ça attire l'attention, ils te collent 6 numéros de n'importe quelle merde sans la moindre valeur, et puis ensuite, à la réimpression, ils te mettent ça sous une jolie couverture avec le nom roman graphique. » Le roman graphique en France, c'est une BD qui n'ose pas le dire, c'est une BD qui se la pète un peu. Surtout quand on entend encore aujourd'hui dire « Je ne lis pas de BD, je lis des romans graphiques. » Tout ça sur le même ton que « Tu veux pas prendre des vrais livres plutôt ?» Alors, une fois pour toutes, débarrassons-nous de cette aberration sémantique. Le roman graphique, quoi que ça veuille dire, c'est une BD. Et les BD sont de vrais livres. Sinon, on sous-entend ainsi que la BD est une sous-culture. Et ce, de la même façon qu'on accusait déjà Dumas père, Balzac ou Dickens de ne pas produire de la vraie littérature quand ils publiaient des romans feuilletons dans les journaux. Mais je m'emporte un peu. On peut tout de même définir d'une certaine façon, en France, le contour du roman graphique, tout en gardant en tête que rien n'est figé. Il existe dans les faits une forme de BD un peu différente de l'édition classique, avec une définition à laquelle je vais me faire un plaisir de donner des contre-exemples. Le roman graphique, ça désigne en général une œuvre longue, plutôt sérieuse et ambitieuse, contenant des personnages aux psychologies complexes, destinés à un lectorat adulte et publiés sous forme d'album. Bien sûr, tous les romans graphiques ne remplissent pas toutes les cases. Hugo Pratt n'a jamais prétendu faire du roman graphique, et pourtant, il y a des BD de super-héros considérés comme romans graphiques. Dans les romans graphiques, on est censé trouver des personnages à la psychologie complexe, mais on en trouve aussi bien chez Franquin et chez Watterson, mais surtout, surtout, il faut aussi bien faire attention à ne pas confondre plus sérieux avec plus intelligent. C'est dangereux d'amalgamer les deux. Le roman graphique, c'est éventuellement une question de ton, de forme différente, mais ce n'est en aucun cas supérieur au reste de la production. Bref, l'important, ce n'est pas lire de vrais livres, de la BD, du manga, du comics ou des romans graphiques, de lire des documentaires, des journaux, de lire sur papier ou en numérique. Il faut lire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, ou ne pas lire si on ne veut pas. La lecture, c'est un plaisir pour soi, jamais pour les autres. Bien entendu, tous les auteurs cités sont présents sur le réseau des médiathèques du QRGA. Sur ce, je vous laisse. Plein de bonnes lectures et à bientôt.
Merci Victor. Toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques, les coups de gueule aussi, sont bien sûr à retrouver en podcast sur le site de cfmradio.fr. La suite de ce mag, c'est après la musique. It's a lot. 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 Like life.
Le mag.
Et ce mag autour de la semaine petite enfance, c'est en ce moment même, et là jusqu'à samedi qui vient, du côté de la communauté de communes du Quercy-Caussadet. C'est Delphine Cubain qui va nous présenter le programme. Bonjour.
Bonjour.
Pour la relais petite enfance, c'est une semaine fournie avec du cinéma, des ateliers, des découvertes métiers, découvertes du langage des bébés et autres spectacles jeunes publics. Il y a tout un tas de choses qui sont développées toute cette semaine. Alors hier, il y avait déjà un atelier Vitalité Famille et un concert. Mais on va parler de ce qui se profile pour la suite. Avant ça, toute une semaine, c'est une première pour le relais petite enfance.
Oui, en effet. Ça fait 30 ans qu'existe une journée de la petite enfance sur le Quercy-Caussadet. Et voilà, il y a eu tout un travail de réflexion qui a été fait en lien avec la convention territoriale globale qui a été signée avec la CAF, où on a essayé de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et ce qui est ressorti, c'est que quand même, cette fête de la petite enfance, elle méritait d'être développée sur une semaine afin de toucher que un maximum de gens puissent en profiter. Donc les actifs, ceux qui travaillent et qui ont des enfants et qui ont envie quand même de partager des activités avec leurs enfants. C'est pour ça que ça va jusqu'au samedi. Et aussi pour que ça tourne sur toute la communauté des communes, que tout ne se fasse pas uniquement à Caussade.
Alors on va le faire dans l'ordre. C'est quoi le programme d'aujourd'hui, sachant que ce matin déjà, il y avait le lieu d'accueil enfants-parents qui était ouvert, alors j'ai envie de dire comme d'habitude. Il y avait un atelier détente et éveil corporel parents-enfants jusqu'à là, ce midi.
À cette fond.
Et alors c'est Pleurs qui nous lit.
Alors oui, on a eu envie aussi de pouvoir proposer des animations pour autant les familles que les professionnels. Donc on a eu l'idée de s'associer avec le cinéma de Caussade, où on va proposer une séance de cinéma sur ces pleurs qui nous lient. En fait, donc quand on est parent ou qu'on est professionnel de la petite enfance, les pleurs du tout petit peuvent parfois beaucoup nous questionner. Donc c'est un petit documentaire sur ce thème-là. Et à l'issue de cette diffusion, alors c'est à 20h30 au cinéma de Caussade. Et à l'issue de cette diffusion, il y aura un pot de l'amitié où justement chacun pourra échanger sur ce qu'il a vu, ou justement échanger avec les familles qui sont là, les professionnels présents. Tout est gratuit cette semaine.
Ouais. Ça c'est ce soir. Pour demain, matinée récréative, on commence comme ça.
Alors la matinée récréative, ça, il y a plusieurs choses sur cette matinée du 15 mai. Donc à Puy-la-Roc, donc il y a une proposition qui est faite par la crèche, l'association Chapi-Chapeau et une association qui s'appelle Picto, qui sera donc au local petite enfance de Puy-la-Roc, où il y a des activités pour les tout petits. C'est ouvert donc aux jeunes enfants accompagnés de leur famille. Et à Caussade, donc il y a le grand atelier des tout petits, donc ce sera au parc de la Pradasque à Caussade, donc de 9h30 à 12h30, où là ce sont des ateliers créatifs pour les enfants de 0-6 ans accompagnés d'un adulte. Alors c'est ouvert aux familles, aux assistantes maternelles, aux professionnels. Donc il y aura de la pâte, en fait une petite patouille, de l'argile, de la peinture, il y aura quelques surprises, et c'est à l'extérieur sur ce joli parc, et voilà, Ça va être super.
Sinon, l'après-midi, donc demain après-midi, découverte des métiers de la petite enfance, c'est du côté de Caussade, au Récollet, salle Maurice Chevalier.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est proposé par le Point Info Jeunesse et l'EREF, donc de Caussade. Donc c'est en fait on essaye de promouvoir les métiers de la petite enfance et donc on s'est dit qu'on allait faire découvrir les métiers autour de table ronde où il y aura des professionnels de la petite enfance qui seront là un petit peu pour parler de leur métier, de la formation qui va avec, pour toutes les personnes qui se questionnent ou qui ont envie de se reconvertir dans les métiers de la petite enfance.
Et il y a un besoin sur le territoire ?
Ben oui, bien sûr, parce que il y a beaucoup de familles qui cherchent un mode de garde et que donc il manque d'assistantes maternelles. Alors ça, c'est au niveau national, c'est le cas, et sur notre territoire aussi. Donc c'est aussi une manière de d'informer sur ces métiers-là. Donc il y aura aussi le service du département qui s'occupe de l'agrément des assistantes maternelles qui sera présent aussi pour informer sur toutes les modalités.
Toujours dans le cadre de la semaine de petite enfance du Quercy-Caussade, on passe à jeudi. Là, vous vous installez à Sept-Fonds.
Voilà, on sera à Sept-Fonds, au pôle petite enfance qui est derrière, c'est derrière la crèche. Et donc là, sont invités donc les familles à travers le lieu d'accueil enfants parents, les assistantes maternelles avec les enfants qui gardent et la crèche de Caussade, de Sept-Fonds, pardon. Et du coup, on va tous se retrouver à l'extérieur autour d'activités pour les tout-petits. Il y aura aussi Stanislas Granier qui viendra faire de la musique pour animer un petit peu cette matinée. Donc il est assez connu sur Caussade et bien apprécié de tous. Et il y a une possibilité de faire un pique-nique sur place à l'issue de cette matinée. Voilà.
Vendredi, c'est à Réalville que vous installez le matin.
Ouais, donc pour le lieu d'accueil enfants parents, qui est habituellement, qui n'est pas ce jour-là, donc là ce sera une petite modification. Le lieu d'accueil enfants parents de Réalville sera le vendredi matin. Voilà, donc ça c'est un service qui est déjà proposé sur la communauté des communes, mais ça permettra aussi à tous ceux qui ne connaissent pas le lieu d'accueil enfants parents de pouvoir le découvrir.
C'est pour les moins de 4 ans et leurs parents.
Oui, c'est que pour les parents, ça, c'est pas pour les assistantes maternelles, c'est que pour les parents.
Et du côté de Sept-Fonds, toujours vendredi, là, il y a un atelier découverte de la communication bébé signe.
Ouais, alors c'est tous ces petits ateliers découvertes qui sont proposés, c'est proposé par Cocon d'éveil. C'est une association qu'on avait aussi envie de mettre en lumière parce que c'est une association qui intervient beaucoup sur le Quercy-Caussade. Donc Élise Beauvallet, qui travaille dans cette association, propose beaucoup d'actions autour de la parentalité. Et là, elle propose une découverte du bébé signe. En fait, c'est comment communiquer avec son enfant qui ne parle pas encore à travers les signes empruntés à la langue des signes, mais qui ne sont pas la langue des signes à proprement parler. C'est pour pouvoir mieux communiquer avec son enfant et ce sera une découverte pour les familles.
Vendredi de 17h30 à 18h30 au pôle petite enfance de Sept-Fonds. Et en continuant samedi, là c'est à Caussade pour un atelier dont je ne vais pas me risquer à prononcer le nom.
Oui, alors c'est un atelier Snozélène. Qui est proposé par la ludothèque de Caussade, qui sera de 10h à 13h et de 14h à 18h. Donc là, c'est un espace qui est aménagé un petit peu autour des sens. Donc c'est tout ce qui est auditif, sensoriel. Et donc voilà, c'est explorer tous les sens à travers un cadre qui est propice à ça, donc avec des lumières douces, une ambiance sonore, des petits jeux de textures. Donc ça, c'est ouvert à tous, c'est pour les tout petits, accompagnés de leurs parents. Donc ça, c'est toute la journée à la ludothèque. Et en parallèle, le matin, il y a aussi une association de Caussade qui propose du handball et qui a une proposition pour les tout-petits, donc pour les 3-6 ans, et qui fait un peu comme une porte ouverte en fait pour informer les familles qui sont intéressées sur le handball pour les tout-petits.
Au gymnase intercommunal de Caussade, Montaïs, pour du handball pour les 3-6 ans. Et en terminant, donc pour cette semaine petite enfance, un spectacle jeune public.
Oui, un spectacle jeune public avec la Barboteuse. C'est un spectacle qui est proposé par la compagnie L'Envers du Monde. Donc à 10h à la salle Bonaïs, c'est un spectacle qui dure à peu près 30 minutes, toujours pareil, gratuit, et qui est ouvert à toutes les familles qui souhaitent venir voir ce petit spectacle avec les enfants. Donc à l'issue du spectacle, il y aura un petit grignotage qui sera proposé à tout le monde.
Puis il y a Alfred et Suzette aussi.
Oui.
Aujourd'hui, jeudi, vendredi.
Voilà, dans le cadre du compte Jeune Public qui est là tous les mois sur le Quercy-Caussade, En fait, ça tombe cette semaine-là, la même semaine. Donc, en plus de toutes nos propositions, il y a le compte jeune public avec quasiment tous les jours une proposition de compte. Voilà. Et je voulais rajouter aussi que le fil conducteur un petit peu de cette semaine-là, c'était aussi, on a réalisé une exposition photo sur les métiers de la petite enfance. On a voulu mettre en valeur un petit peu l'existant que nous avons. Donc on a été dans les crèches, on a pris les professionnels en photo, les assistantes maternelles en photo. On a même été dans les centres de loisirs qui accueillent les 3-6 pour prendre en photo un petit peu les professionnels en situation. Et ça a donné une exposition qui sera visible donc à la soirée aussi après le cinéma. Quand il y aura le petit pot de l'amitié. Elle sera présente aussi lors de la présentation des métiers de la petite enfance et le samedi lors du spectacle pour les tout-petits. Comme ça, voilà, on avait envie aussi de promouvoir un petit peu leur travail à travers cette expo photo.
Sinon, c'est des rencontres parentalité, des échanges professionnels, des animations de toutes sortes, ateliers d'éveil, spectacles, expositions, donc cinéma, c'est tout ça. La semaine de la petite enfance, c'est là jusqu'à samedi. C'est pour les 0-6 ans et les parents, bien sûr. Tout est organisé par la Comcom du Kersico Sadé. On peut donc retrouver toutes les infos sur votre site internet.
Oui.
Et vous contactez Delphine Cuben. Je rappelle que vous êtes responsable du relais petite enfance pour cette Comcom Kersico Sadé. Donc, merci beaucoup. Puis à tout à l'heure. Là.
Ouais. Merci.
Looking at me, I can see her eyes looking from the page of a magazine.